France Musique.
Alors que la saison des festivals d'été est presque terminée, nous vous proposons ce matin déjà un premier bilan de ces manifestations. Et c'est avec vous, Antoine Péqueur, bonjour.
Bonjour Sophia, bonjour à tous.
On commence avec quelques chiffres.
Alors il y a bien sûr, Sophia, des différences importantes d'un festival à l'autre, mais ce qu'on constate cette année, c'est une baisse du taux de fréquentation des plus grandes manifestations. Le festival d'Avignon enregistre une baisse de 8,8% par rapport à l'année dernière. Les Eurocaines de Belfort, un recul de 5,2%.
En ce qui concerne la musique classique, le festival d'Aix-en-Provence ne fait pas exception.
C'est même l'une des baisses du taux de fréquentation les plus spectaculaires, moins 27% par rapport à l'année dernière. Autant dire une douche froide pour le nouveau directeur du festival, Pierre Audi. Tous les indicateurs sont à la baisse, depuis le nombre de places délivrées jusqu'au taux de remplissage des représentations d'opéra.
Et comment expliquer une telle déconvenue, Antoine ?
Plusieurs facteurs s'additionnent. Pierre Audi, pour se démarquer de ses prédécesseurs, n'a pas voulu programmer d'opéra de Mozart, mais seulement une version scénique du Requiem, une manière de sortir de l'ADN du festival, qui n'aura visiblement pas été du goût de tout le monde. Un grand nombre de productions se sont aussi illustrées par leur noirceur, leur sens tragique, peut-être trop. Quant au prix des billets, ils ont nettement augmenté par rapport à l'année dernière, atteignant des montants stratosphériques dans les premières catégories, jusqu'à 290 euros par exemple pour une place d'opéra.
Le festival d'Aix-en-Provence est pourtant l'un des mieux dotés en termes de budget.
C'est là où il y a une certaine ironie, puisque Pierre Audi n'a eu de cesse avant le début du festival de demander encore plus d'argent à la puissance publique comme aux mécènes privés. Or, le budget du festival est de 24 millions d'euros et c'est effectivement déjà l'un des plus subventionnés.
Et selon vous, Antoine, c'est la politique même de l'État envers les festivals qui doit être repensée.
Une mission avait été confiée à ce sujet par Françoise Nyssen à Serge Cancel, mais depuis l'arrivée de Franck Riester au ministère de la Culture, c'est silence radio. On ne sait même pas ce qu'est devenue cette mission. C'est dramatique. Il n'y a pas de politique de l'État en matière des festivals, si ce n'est donc aider 4-5 manifestations prestigieuses. Et pendant ce temps, l'immense majorité des festivals ne reçoit aucun argent de l'État et se déroule dans des conditions économiques précaires grâce aux bénévoles, aux artistes qui acceptent des cachets très faibles. Et dans ces festivals, le public était cet été bien présent. La chute du taux de fréquentation du festival d'Aix doit amener sans tarder l'État à construire une vraie stratégie pour les festivals, dans une politique de proximité avec les territoires, sans se limiter aux paillettes de quelques manifestations phares, nécessaires bien sûr, mais qui ne résument pas à elles seules la vie artistique du pays.
Merci beaucoup Antoine Péqueur, c'était votre premier billet éco dans le Classique Info. Un rendez-vous à retrouver désormais chaque lundi. La semaine prochaine, ce sera depuis Londres pour une chronique spéciale Brexit. Au revoir Antoine.
La suite de Classique Info, le ténor Sergueï Kaïdalov, j'espère que je prononce bien, remporte le premier prix du concours international Reine Sonia, ça c'est en Norvège.
Le baryton russe de 27 ans a été désigné lauréat de la compétition qui se tenait à Oslo, soliste au théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg. Il repart avec la somme de 50 000 euros.
Et pour tout terminer, vous nous l'aviez annoncé tout à l'heure, le changement de vie à venir du maestro du chef d'orchestre Daniel Harding.
Et dans une interview accordée au journal espagnol El País, il annonce qu'au printemps prochain, il rejoindra la compagnie Air France en tant que copilote. Actuellement à la tête de l'orchestre de Paris, il raconte avoir obtenu son brevet de pilote professionnel il y a peu. Il annonce vouloir prendre un congé sabbatique au cours de la saison 2020-2021 pour se consacrer à l'aviation. Voilà. Moi, je l'accompagnerais bien pour un petit reportage, si jamais il nous écoute.
C'est une idée, vous montez dans le cockpit et il troque donc la baguette contre le... le volant, mais ce n'est pas vraiment un volant. Merci Sophia Anastasio, on vous retrouve demain à 7h45. Et toutes ces infos sont également sur francemusique.fr. 7h50, il a 34 ans, Jean Sibelius, lorsqu'il achève l'écriture de sa première symphonie. Alors l'héritage romantique, Tchaïkovski notamment, est là, mais déjà son style propre apparaît, comme dans ce scherzo, troisième mouvement qu'il voulait sous-titrer à l'origine « Conte d'hiver ». On est entre beauté et brutalité, porté avec beaucoup de conviction ici sur ce nouvel enregistrement par l'orchestre symphonique de Göteborg, dirigé par Santtu Matthias Ruvalli.
Thank you.
Scherzo de la première symphonie de Jean Sibelius, l'orchestre symphonique de Göteborg ou Göteborg en suédois, dirigé par Santtu Matthias Rovali. Vous voudriez en écouter plus, ce disque vous fait envie, il est à gagner maintenant sur France Musique et on jouera tous les matins, tous les jours, à 7h-ci. Alors pour gagner, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de Musique Matin, votre nom, prénom, adresse complète et réponse à la question que je vous pose maintenant. On joue avec les concerts que France Musique vous offre tous les soirs de l'année à 20h, comme ce concert que j'ai écouté moi cet été avec ce cœur si beau. La question, la voici. Tout le monde peut jouer, connaisseur ou pas, on s'en fiche. Pour le disque ou pas, on peut aussi jouer dans sa tête pour le plaisir. Je vous donnerai la réponse en fin d'émission. Quelle est la nationalité du musicien ou de la musicienne qui a composé cette musique? Elle est trois propositions. Estonien, suédois ou islandais? Estonien, suédois ou islandais? Votre réponse maintenant sur francemusique.fr. La réponse dans une heure. Belle musique, beau cœur, belle langue, mais quelle langue, quel musicien estonien, suédois ou islandais? Votre réponse sur francemusique.fr, la réponse dans une heure, à tout de suite.
Les grands entretiens de 22h30 à 22h55, Benjamin François, France Musique.
Daniel Roth est un de nos plus grands organistes français. Humaniste, Grand Prix de Chartres, il pilote depuis 1973 un des plus fabuleux instruments d'Aristide Cavaillé-Coll à l'église Saint-Sulpice de Paris. Entre l'Alsace, la ville de Washington et l'Allemagne, Daniel Roth se raconte toute cette semaine avec passion.
Les grands entretiens de 22h30 à 22h55 à retrouver sur France Musique et francemusique.fr. Relax de 15h à 17h, Lionel Esparza, France Musique.
Relax, c'est votre nouveau rendez-vous de l'après-midi. Des disques comme on les aime, de la fantaisie, du plaisir, un invité quand le cœur nous en dit, chaque jour à 16h, un disque de légende, et tout cela, le cœur léger et l'âme sereine. Tous les jours, à 15h, soyez relax.
Relax, à retrouver sur France Musique et francemusique.fr.
Lionel Esparza qui sera avec nous dans quelques minutes pour nous parler de sa nouvelle émission. Il est 8h. lors d'un nouveau journal avec Olivier Denré. Rebonjour, cher Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. La visite surprise du ministre iranien des Affaires étrangères hier à Biarritz restera comme l'un des temps forts du sommet du G7 qui se termine aujourd'hui. Un coup diplomatique à mettre au crédit de la France qui, depuis plusieurs mois maintenant, tente de jouer les médiateurs entre Washington et Téhéran à propos du dossier nucléaire. Paris et ses alliés européens veulent en effet sauver l'accord international conclu en 2015, accord déchiré il y a maintenant plus d'un an par Donald Trump. L'autre grand dossier de ce G7 organisé dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est évidemment la question climatique. Le président français, une fois encore, est à la manœuvre au moment où une partie de la forêt amazonienne part en fumée. Cyril Graziani.
Quand Emmanuel Macron a rencontré le cacique Raoni en mai dernier à l'Elysée, le fils du chef amazonien avait déployé une grande carte de l'Amazonie pour montrer au président français les ravages de la déforestation et les zones en péril. Quelques mois après, la forêt est en feu. Entre les dirigeants français et brésiliens, c'est l'escalade verbale, même si depuis le début du sommet du G7, Emmanuel Macron a baissé de ton. Samedi soir, lors du dîner, les sept puissances ont unanimement pris la décision de venir en aide à l'Amazonie, Donald Trump expliquant juste ne pas vouloir se brouiller avec Bolsonaro et qu'il refusait toute confrontation. À la manœuvre, Emmanuel Macron entend reprendre le leadership du combat climatique et il espère bien obtenir la signature américaine en bas de la charte pour la biodiversité. Mais surtout politiquement, le chef de l'État sait que l'écologie sera un des thèmes majeurs des prochaines municipales, d'où la nécessité de trouver un savant dosage entre conviction et pragmatisme politique.
Le G7 terminé, l'Élysée devrait annoncer dans la foulée le nom de son ou de sa représentante au sein de la Commission européenne. Quel commissaire pour quel poste? La plupart des autres pays membres ont déjà fait connaître leur choix. Angélique Bois nous appelle de Bruxelles.
L'environnement, le commerce, un homme ou une femme, à l'Élysée, plusieurs hypothèses auraient été à l'étude jusqu'à la dernière minute. L'environnement aurait l'avantage de la cohérence pour travailler en duo avec les élus européens. C'est en effet le français Pascal Canfin qui préside la puissante commission parlementaire de l'environnement. Sur ce poste, les noms de Laurence Toubiana, Ségolène Royal ou Brune Poirson circulent. Au commerce, Michel Barnier ou encore Sylvie Goulard, actuel sous-gouverneur de la Banque de France, sont régulièrement cités. Mais les jeux restent ouverts et l'attribution des portefeuilles se fera en concertation avec la présidente de la commission, qui a par ailleurs promis une équipe paritaire. Sauf surprise, le néerlandais Frans Timmermans, la danoise Margrethe Vestager et l'espagnol Joseph Borrell, comme chef de la diplomatie, feront partie de l'équipe. Le plus jeune candidat est lituanien, il a 28 ans. Et le plus problématique sera sans doute le hongrois. Un ancien ministre de la justice est proposé par Viktor Orban. Pas sûr qu'Ursula von der Leyen apprécie de la part d'un pays accusé de régulièrement bafouer l'état de droit.
Essayez d'apaiser les tensions avec la rentrée avant la rentrée des classes. Jean-Michel Blanquer reçoit aujourd'hui et demain les syndicats d'enseignants, toujours très remontés contre la réforme du bac notamment. La FSU, le premier syndicat du primaire, ouvre le bal. Le syndicat estime que le ministre a sans doute reçu des consignes pour que l'année ne commence pas dos à dos. C'est l'un des textes phares du quinquennat. Il doit être débattu par les parlementaires à la fin du mois de septembre. Mais dès aujourd'hui, 72 députés s'attaquent officiellement à l'examen du projet de loi sur la bioéthique qui prévoit notamment l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée, à toutes les femmes. Ces élus appartiennent à une commission spéciale qui a prévu d'auditionner beaucoup de monde, Tara Schlegel.
Cette commission spéciale a été précisément constituée pour pouvoir cerner la totalité de la future loi. Les députés viennent donc d'horizons divers et sont membres de différentes commissions permanentes. Affaires sociales, affaires culturelles et éducation, mais aussi défense, finances, développement durable. Tous ont jusqu'au 5 septembre pour se familiariser avec le texte et se forger une opinion sur les 32 articles proposés. D'ici là, ils auront entendu, dès cette semaine, une quarantaine de personnalités concernées directement par la révision de la loi de bioéthique. Toutes les tendances vont s'exprimer, notamment sur la très polémique PMA, procréation médicalement assistée, que le gouvernement a l'intention d'ouvrir aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Seront par exemple reçus les représentants des associations qui défendent les familles homoparentales, les militants LGBT, le planning familial, tout comme la présidente de la Manif pour tous et les associations familiales catholiques. Mais aussi des chercheurs, des médecins, des généticiens comme le professeur René Friedman, le président du comité comité consultatif d'éthique, Jean-François Delfrécy, et tous les représentants des cultes. Les auditions vont se poursuivre la semaine suivante. Toutes sont retransmises sur le site internet de l'Assemblée, ce qui n'est pas forcément le cas pour chaque projet de loi.
Confrontée à une sécheresse exceptionnelle, la ville de Guéret, dans le département de la Creuse, estime avoir devant elle 100 jours de provision d'eau potable, pas plus. Ensuite, indique le maire, il faudra faire appel à des camions-citernes pour approvisionner les habitants. Actuellement, 85 départements français subissent des restrictions d'eau plus ou moins sévères. Quelques ondées sur la pointe bretonne et sur l'ouest des Pyrénées uniquement. Partout ailleurs, un grand soleil et beaucoup de chaleur. Les températures iront cet après-midi de 21 à 37 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré. À demain, Olivier.
À demain, avec plaisir.
Merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. C'est leur second disque ensemble, Maria Milstein au violon, Natalia Milstein au piano, ont enregistré Maurice Ravel, voyageur, ou quand le compositeur basque s'inspire des harmonies venues d'ailleurs. Mais d'où exactement? Les deux sœurs sont nos invitées à 8h30. C'est la rentrée sur France Musique. Quoi de neuf cette saison? Le boss, Marc Boinchet et Lionel Esparza, qui s'installent l'après-midi, seront avec nous vers 8h20.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Le Brésil pour le pire, ce sont les mots du président Jair Bolsonaro et de son ministre de l'Éducation. On en parlait à l'instant avec Olivier Denré. Avec l'insulte, parfois les attaques sur le physique et l'inaction face aux dramatiques incendies qui ravagent la forêt et menacent tout un écosystème. Le Brésil pour le meilleur, ce matin sur France Musique, Hector Villa-Lobos, la 5e Bacchanas Brasileiras Aria Cantilene, la voix de Leila Guimarães et les violoncelles de l'Orchestre Symphonique du Brésil, comme une prière pour l'Amazonie. Thank you. La voix de Leila Guimaraes, les violoncelles de l'Orchestre Symphonique du Brésil. C'était la cinquième Baquianas Brasileiras d'Hector Villa-Lobos. 8h12, France Musique, peu importe. Nevermind, c'est le nom, un tantinet désinvolte, choisi par le claveciniste Jean Rondeau et ses amis Louis Créac, Robin Farreau et Anna Besson, quatuor baroque, mais qui se frotte aussi au jazz, aux musiques traditionnelles, avant une tournée en Australie le mois prochain. Quelle chance! Ne les ratez pas, les Nevermind, ce soir au Festival de la Chaise Dieu. Et demain, à Périgueux, Nevermind. Ce matin, sur France Musique, il joue Georg Philipp Telemann. Extrait du quatuor pour flûte traversière, violon, viol de gambe et clavecin. Georg Philipp Telemann, l'ensemble Nevermind. 8h16, vous écoutez France Musique. Et c'est l'heure du retour de Suzanne Gervais pour cette nouvelle saison, Musique Connectée et son petit modem qui fleure bon les années 90. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Avec pour cette nouvelle saison connectée, un beau projet, il s'appelle Clara.
Clara, comme le prénom de celle dont nous fêtons le 200e anniversaire en 2019. Clara Schumann, vous l'aurez sans doute deviné. Eh bien Clara, c'est le nom qu'a choisi le Festival Présence Féminine pour sa nouvelle base de données consacrée aux compositrices. Des compositrices compositrices d'hier et d'aujourd'hui qui sont trop peu connues du public, des musiciens et des programmateurs. Alors je prends un petit peu d'avance en vous en parlant ce matin car cette base de données sera réellement en ligne fin octobre, mais je vous en parle dès maintenant parce qu'elle est collaborative, hein, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur la page d'accueil et contacter l'équipe de Clara si vous avez découvert une compositrice ou une œuvre, ou si vous possédez des archives, hein, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous. Alors les contributions seront mises en ligne au fur et à mesure après avoir été examinées par un comité scientifique qui sera composé de musicologues et de musiciens.
Ce sera donc en octobre et justement, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette base de données?
Alors on va pouvoir parcourir des listes d'œuvres et des partitions numérisées et on trouvera pas mal de publications comme des biographies de compositrices et puis des playlists aussi, de quoi donner des idées aux musiciens qui voudraient découvrir du répertoire, aux éditeurs, pourquoi pas, et on l'espère aux programmateurs.
Ça n'existait pas du tout pour l'instant ce type de site ressource, comme on dit, sur les compositrices?
Alors pas en France et puis pas de manière aussi exhaustive. En Allemagne, il y a déjà un site qui s'appelle archivfraumusik.de qu'on peut consulter en allemand bien sûr et puis en anglais. Donc le but de Clara, c'est aussi de renvoyer vers ces autres sites qui sont consacrés aux compositrices, comme Pluriel 34 en France ou les associations de compositrices qui sont très nombreuses, je pense à l'association Marie-Jaël en Alsace ou à l'Institut Sophie Drinker en Allemagne.
C'est noté, Suzanne Gervais, Clara, base de données réservée aux compositrices de toutes les époques, de Hildegard von Bingen à aujourd'hui. Donc vous aurez toutes les infos à la page de cette chronique sur francemusique.fr. La chronique s'appelle Musique Connectée. La chroniqueuse s'appelle Suzanne Gervais et on la retrouve à 8h15 demain.
Demain, exactement.
Merci Suzanne.
À réécouter sur francemusique.fr.